bonsoir et merci de me choisir pour connaître la température économique de la RDC. Et d'ailleurs, Sylvain Matundu manie la console, Daniel Tambinzoni est à la réalisation, Agathe Mpona et les mains au micro. Berry Franklin Luchaka, toujours fidèle pour nous donner les nouvelles.
Oui, Agathe, dans le territoire de Béni, l'administrateur du territoire a réuni aujourd'hui les opérateurs économiques du secteur du bois qui se disent victimes de tracasseries administratives sur leur lieu de travail, mais également sur les voies d'évacuation de leurs produits. Étienne Moindo nous le dira dans deux minutes, avec en plus de détails. Et puis nous irons au Kasaï oriental où les activités du secteur d'antifraude ont été suspendues momentanément depuis le 26 janvier dernier. Sur toute l'étendue de la province. C'est un dossier de Chris Moukand développé avec Jocelyne Moussan-Koundé à suivre dans la seconde partie de cette émission.
Une seconde partie qui reçoit Jean-Pierre Mongo, administrateur délégué général à l'Office congolais des postes et télécommunications. Il s'exprime sur l'installation de la fibre optique et des avantages économiques de cette technologie. Des conséquences sont visibles après la révision à la hausse du prix du carburant à Kinshasa.
Certains chauffeurs exagèrent quant à la tarification du coût du transport. Pour une course qui se paye à 350 francs, ils exigent jusqu'à 500 francs congolais la course. Le président provincial de l'Association des chauffeurs du Congo affirme qu'aucune mesure n'est prise jusque-là. Et Nestor Kabeno précise que l'Hôtel des Villes pourra convoquer une réunion d'ici mercredi prochain pour harmoniser cette tarification.
Il n'y a pas d'activité économique à Dungu, et ce, depuis ce matin jusque demain.
Ainsi ont décidé les opérateurs économiques locaux. Nous sommes à 780 km au nord-est de Kisangani. Ils affirment que l'insécurité grandissante dans leur territoire et centre des négoces ne leur permet pas de bien exercer leurs activités économiques. Le président de la FEC, Ouélé, affirme que les opérateurs économiques de Dungu adhèrent au mémorandum de la société civile qui a dénoncé l'inertie du gouvernement congolais vis-à-vis des rebelles ougandais de la LRA.
Et l'exécutif provincial de Kinshasa qui suspend les cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, c'est une décision qui ressort de son conseil de la semaine passée et qui a été publiée hier dimanche.
C'est à titre conservatoire, confirme la porte-parole du gouvernement quinois aujourd'hui. Thérèse Olinga précise que c'est pour permettre à l'inspection des services, une nouvelle structure mise en place par l'exécutif provincial depuis quelques mois, pour effectuer des enquêtes générales dans les structures qui sont sous la responsabilité du gouvernement provincial, dont la DGA.
La succursale de la coopérative La Semence de Kassindi a été cambriolée la nuit d'hier à aujourd'hui.
Nous sommes à Kassindi, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Béniville, dans les territoires de Béni. Environ 200 000 dollars américains ont été emportés et le président de la société civile Béni affirme que ces cambrioleurs ont emporté tout le coffre-fort contenant de l'argent. Le policier commis à la garde de la coopérative est aux arrêts pour des raisons d'enquête, mais jusque-là, il n'y a aucune trace des cambrioleurs, affirme la même source.
Et pour finir, c'est la Fédération des entreprises du Congo, section Bandaka, qui frappe l'Office congolais de contrôle.
Elle vient d'interdire à l'OCC la perception de la taxe de transaction locale sur des produits manufacturés. Selon la Fédération, cette taxe était perçue illégalement depuis plus de 6 mois par cet office. Mais l'OCC dit agir dans la légalité car cette redevance est connue par des textes légaux.
Merci.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil de ce soir nous vient de Butembo, où dans le territoire voisin de Béni, l'administrateur de territoire a réuni ce lundi les opérateurs économiques du secteur du bois qui se disent victimes de tracasseries administratives sur leur lieu de travail. En ligne, notre confrère Étienne Moindo. Bonsoir Étienne.
La rencontre de ce lundi a réuni une centaine d'exploitants forestiers autour de Justin Moukania, administrateur des territoires. Il faut rappeler que la situation que traverse ce secteur du bois est, selon le président du syndicat de défense des intérêts des exploitants forestiers, M. Yannick Kambalé, plus que déplorable. Là va du dédoublement des taxes, à passant par la perception des taxes non reconnues par la nomenclature des recettes publiques, à la perception des taxes sans quittance. Les services qui rendent coupables sont tous des services de sécurité. À cet acte dont le montant varie entre 10 et 20 dollars, s'ajoute la perception tout aussi illégale par les policiers commis à la circulation routière de la taxe baptisée PESA-Rapport et le manque d'imprimer des valeurs.
Et quelles sont les mesures prises au cours de cette réunion, Étienne?
Désormais, toutes les taxes de l'État, notamment celles dues au territoire et d'autres à la province, seront délivrées par le seul service de l'environnement. Tous les autres services ont reçu l'ordre de ne plus s'immiscer dans la gestion du secteur forestier.
Ne plus s'immiscer dans la gestion du secteur forestier, mais les opérateurs économiques en question sont-ils satisfaits de cette décision?
Pour Yannick Kambalé, la province ferait mieux de disponibiliser les imprimés de valeur de telle sorte que les faux exploitants cessent de travailler dans ce secteur avec un simple permis de circulation que tout le monde peut se fabriquer à l'ordinateur. Sur le papier, les mesures prises sont satisfaisantes, restent maintenant leur application sur terrain. En outre, il aimerait plus d'implication des FRDC dans la protection des exploitants forestiers dans ce territoire de Béni, dont une grande partie reste le domaine des EDF Nalou, Rebelle Zougadé.
Merci Étienne et surtout bonne soirée à Boutembo.
Merci à vous.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Lutchaka.
En Afrique du Sud, les profits des banques ont chuté au quatrième trimestre de l'année 2009.
C'est en raison du recul de la demande de crédit et de la faiblesse des volumes de transactions des clients. Selon l'enquête du cabinet Ernst & Young, la confiance dans les banques a diminué à 34 durant la période considérée, contre 41 le trimestre précédent.
Shell arrête une partie de sa production au Nigeria.
C'est ce qu'affirme le porte-parole du géant pétrolier anglo-néerlandais aujourd'hui après un sabotage sur un oléoduc du sud pétrolier du Nigeria. En fait, une fuite a été constatée depuis samedi dernier sur l'oléoduc Trans-Ramos et une enquête a confirmé que la fuite était due à un sabotage, précise un autre porte-parole. Et ces porte-paroles ont tous refusé de préciser la baisse du volume de production consécutif à cette décision.
Merci Berry pour toutes ces informations économiques en international. Tout de suite, la seconde partie de votre magazine consacrée en premier à ce dossier développé la semaine passée par Chris Moukand et Jocelyne Moussao.
Écho d'économie, le dossier.
Les activités du service antifraude momentanément suspendues sur toute l'étendue du Kasaï oriental. Chris Moukand, vous suivez pour nous ces dossiers. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette mesure?
La lettre de suspension adressée au coordonnateur provincial du service antifraude au Kasaï oriental parle des accusations de tracasserie sur les opérateurs économiques. Des accusations à ce sujet seraient donc parvenues au procureur général qui a pris la décision de suspendre momentanément ce service pour question d'ordre. Toutefois, le coordonnateur intérimaire du service de l'antifraude, qui a la copie de la lettre de suspension, nous fait lecture de quelques extraits de cette lettre. On écoute Nestor Mwango.
Il a dit, en considération des plaintes de la population de Monébitou, de Mujima et de Lusam, il suspend momentanément le service antifraude pour qu'on puisse réorganiser et trouver des méthodes dures pour relancer les attaques.
Mais entre-temps, Chris Moukand, quel service va combler ces vides? Parce que de par sa dénomination même, ces services semblent aussi importants.
C'est une pertinente question, Jocelyne. Soulignons d'abord que ce service s'est installé au Kasaï oriental au milieu de l'année dernière. Il venait pour se déployer sur toute l'étendue de la province, mais un arrêté du gouverneur de province a cantonné ses actions juste dans la gare de Mweneditou. Selon ses termes de référence, ce service devrait mener sa lutte ou la lutte contre la fraude dans les domaines principalement à l'aéroport de Bipemba, dans les comptoirs d'achat de diamants et les mini-marchés de diamants, dans les domaines de produits cosmétiques, tabacicoles, les boissons alcooliques, les produits alimentaires et des savonneries importées, les produits pétroliers et des cimenteries, les stupéfiants, les armes à feu et les munitions, les relations entre les maisons commerciales et les régies financières et les droits et taxes de la douane. Il devrait, ce service, donc, s'intéresser également aux services publics générateurs de recettes, aux dépenses publiques, à la paix des agents et fonctionnaires de l'État et aux marchés publics. Les contrats miniers et l'exploitation minière en province, c'est aussi son domaine. Et pour terminer, il y a l'immatriculation obligatoire des véhicules automoteurs et les assurances obligatoires. Donc c'est un vaste champ d'action. La question est donc pertinente, qui va s'occuper de tout cela? Mais on estime qu'il y a déjà des petits services et des petites brigades qui sont installées par-ci, par-là, notamment à l'aéroport de Bipemba, où il existe une brigade antifraude différente du service antifraude.
Mais Et comment lui-même, le coordonnateur du service antifraude, accueille-t-il cette mesure du procureur général de la République?
Naturellement mal. Nestor Mwango estime que sa hiérarchie a été induite en erreur. Pour lui, beaucoup de personnes méconnaissent encore le rôle du service antifraude.
Et la FEC locale, quelle opinion a-t-elle de cette interdiction du service antifraude au Kassai Oriental?
Pour la FEC, le service antifraude n'est pas repris par le décret loi instituant les guichets uniques au poste frontalier. Louis Kabongo Mukendi, lui, est deuxième vice-président provincial de la FEC Kassai Oriental.
Cette décision de Monsieur le procureur général est la bienvenue. Nous avons à ce sujet saisi l'autorité provinciale en date du 11 décembre 2009. Nous avons dénoncé les exactions, les amendes et tracasseries diverses auxquelles s'adonnait le service antifraude en gare de Mwenedito. Les différents contrôles sont de la compétence des différents services de l'État, notamment l'OFIDA en matière d'importation, l'OCC en matière de contrôle des importations. Les services de l'hygiène contrôlent la qualité des articles alimentaires qui sont fournis aux consommateurs. Et la DGM contrôle la circulation des personnes et des biens.
Oui, Chris, la FEC s'est réjouie de cette suspension, mais c'est pour combien de temps?
La durée n'est pas encore connue. Dans une correspondance adressée au gouverneur de province, le ministre provincial de l'économie et finances informe l'autorité provinciale de la descente tout prochainement à Mwenedito d'une commission qui sera mixte avec plusieurs services de la province. Nous allons nous intéresser à l'évolution de ce dossier, Jocelyne.
Merci beaucoup, Chris Mukande. Bonne soirée.
Merci, Jocelyne.
L'entretien de ce soir.
Dans l'entretien de ce soir, nous recevons Jean-Pierre Mongo, administrateur délégué général de l'Office congolais des postes et télécommunications. Avec lui, nous nous entretenons sur l'installation de la fibre optique en RDC. Jean-Pierre Mongo, dites-nous de prime abord, c'est quoi exactement cette nouvelle technologie appelée fibre optique?
La fibre optique, madame, je dois revenir peut-être sur les anciens modes de transport de l'information. Peut-être vous avez connu les télégrammes et les télégraphes, mais après il y a eu des fibres à cuivre qui servaient d'interconnexion de point à l'autre pour transporter l'information téléphonique. Actuellement, on est passé sur un support qui s'appelle fibre optique et qui fait passer l'information à la vitesse de la lumière. Ça, en très grande quantité. Le monde entier se met à échanger des informations sur ce support-là et nous, en République démocratique du Congo, avons commencé les travaux pour le faire.
Quels sont les avantages que les Congolais peuvent tirer de cette technologie appelée fibre optique?
Partout où vous faites de l'Internet, ou de l'image, ou du multimédia, il faut qu'il y ait du haut débit pour vous connecter au reste du monde, qui offre l'avantage de pouvoir donner du très haut débit des informations à très grande vitesse. L'autre avantage, c'est que quand on le fait comme ça, on diminue le coût pour donner accès au plus grand nombre de gens à ce support-là. Et donc, dans notre pays, on doit faire un grand pas pour que les gens puissent justifier des investissements dans n'importe quel coin de notre pays parce qu'il y aurait Internet. Actuellement, on a une très très faible utilisation d'Internet dans le pays et ce n'est pas normal. Nous avons des avantages techniques, des avantages de rapidité, des avantages socio-économiques, des avantages d'éducation aussi.
Où en est la RDC avec l'installation de ce réseau?
Nous venons de terminer la première phase. C'est une phase qui est prévue pour nous mettre en liaison avec le monde via l'océan Atlantique. Mm-hmm. Et la connexion chez nous se ferait à Mwanda, à l'océan Atlantique. Mm-hmm. Il y a d'autres connexions qui se font vers l'est, mais la principale est là, qui est l'entrée et la sortie de notre pays. Mais pour pouvoir la rendre rentable, il faut la tirer jusqu'à Kinshasa. Mm-hmm. Cette partie vient d'être terminée.
Okay.
Nous attendons maintenant la jonction qui se fera peut-être au mois d'août de cette année-ci. Mais pour le moment, nous sommes occupés à faire les essais et les formations.
Donc, au mois d'août, la RDC sera connectée à la fibre optique?
Nous sommes déjà connectés à la fibre optique sur le réseau local entre Mwanda et Kinshasa. Nous faisons partie des consortiums des gens qui sont propriétaires des câbles qui passent dans l'océan. Il y en a un ou deux de ces câbles sur lesquels nous allons nous relier pour maintenant avoir une connexion directe avec le reste du monde.
Une fois que cette technologie est bien installée ici en RDC, qu'est-ce que cela va changer, par exemple, dans la gestion de l'OCPT ou avec les fournisseurs Internet ou les réseaux de télécommunications que nous avons ici?
L'OCPT, c'est sa mission d'intérêt général, lui pose le réseau public. Donc, pour les Internet providers, ils vont certainement, pour des avantages de prix, prendre une partie de leur trafic qui passe sur le satellite, ils vont le mettre sur la fibre optique. Les opérateurs GSM également, et les clients, s'il y en a des clients comme vous, comme moi. Donc, un gros avantage de diminution de prix, des facilités d'accès et surtout d'échanges de grands volumes et en très peu de temps.
Merci Jean-Pierre Mongo, vous êtes administrateur délégué général à l'Office congolais des postes et télécommunications. Vous nous avez reçu dans votre bureau pour nous entretenir sur l'installation en RDC de la fibre optique. C'est avec vous que nous bouclons Écho d'économie de ce soir. Réécoutez-nous sur www.radioocapi.net. Prochain rendez-vous demain 18h15, heure de Kinshasa. Bonne soirée chez vous.